Le mois de l'histoire des Noirs est célébré en grand par les femmes, la diversité, au CEDEX de l'Université du Québec à Montréal, dans le cadre d'une exposition collective subalterne. Et je suis absolument ravie de pouvoir m'entretenir avec un duo de commissaires à mes côtés, vraiment entourés des œuvres. Eh bien, il s'agit de Diane Gistal.
Bonjour.
Et Michael Sergil. C'est un plaisir, donc, ici, de pouvoir, après l'événement du vernissage hier soir, bondé et bruyant, quel plaisir de pouvoir parler de cette exposition dans le calme. Et tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu du titre percutant de cette exposition-là, Subalterne. Écoutez, c'est une prise de position, résolument. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce titre, quand même, qui suscite toute une réflexion?
Alors en fait, le titre subalterne, déjà premièrement, avant de réfléchir au titre, on a réfléchi à ce qu'on voulait présenter lors de cette exposition. Donc c'était des femmes noires qui parleraient d'elles-mêmes et qui se réapproprieraient la narration. Et on s'est dit comment parler des femmes noires et comment mettre un titre sur le vécu de ces femmes noires. Et on a pensé, donc Michael a vraiment pensé à la subalternité. Et par la suite, donc on a lu sur les subaltern studies, c'est-à-dire la position d'être sous l'autre constamment, comme on disait dans notre texte introductif, quand on parle des personnes noires, on priorise le vécu des hommes noirs. Lorsqu'on parle des femmes, on priorise le vécu des femmes blanches. À quel moment allons-nous enfin écouter le déferlement de cris, de colère, d'histoire des femmes noires? Et c'est pour ça qu'on a voulu avoir ce titre choc, ce titre qui marque, parce que les femmes noires sont vraiment dans cette position de subalternité, et surtout avec également la question de leurs identités qui sont complexes et qui s'imbriquent. On peut être une femme noire lesbienne, une femme noire queer, une femme noire issue d'un milieu social défavorisé, une femme noire, enfin il y a différentes identités.
Je vois aussi qu'il y avait un beau lien à faire avec le début de la subalternité, avec les subaltern studies. Et il y a aussi Gayatrice Pivac qui avait réutilisé les Subaltern Studies puis qui avait écrit un texte qui s'appelle « Can the Subaltern Speak » et que je trouvais vraiment pertinent, mais qu'au final, on s'est beaucoup centralisé sur le texte parce que c'est de reprendre ces écrits, de reprendre ces discours et de nous les approprier puis de les mettre justement à nos discours, à nous, parce que c'est un peu la même chose que nous vivons, mais en même temps à des degrés différents, à des époques différentes. Et le fait que nous sommes femmes noires et que à l'époque les subalternes studies viennent de l'Inde, on trouvait aussi pertinent de se l'approprier, de le faire vivre ici au Canada. Il y a aussi le fait que quand on dit subalterne, c'est de vivre. Pour moi, c'est de vivre simultanément plusieurs discriminations, mais aussi de. On doit toujours choisir une des choses dans laquelle on fait partie. Par exemple, d'être femme noire, c'est d'être femme et d'être noire. Et souvent, les femmes vivent justement discrimination par rapport à leur genre. Puis, femmes noires, ben, les personnes noires par rapport à l'ethnie. Donc, ces deux choses sont indissociables finalement. Puis c'était comme si, à chaque fois, dans toutes les luttes, il fallait toujours dissocier ces deux choses-là pour vraiment lutter aux côtés des autres. Donc, je trouvais que subalterne, subordonné, toujours mettre de côté, c'était une chose qu'il fallait mettre de l'avant et en parler.
Tout à fait. Alors, et c'est bien le cas dans le cadre de cette exposition-là, vous donnez la parole à la femme noire de différents statuts. Ouais. Vous donnez aussi les mots aux femmes noires ici. C'est intéressant peut-être de nous parler de votre choix de donner de la place à la poésie, à la littérature dans cette exposition-là. Ça, c'est intéressant. Alors, on voit que vous avez tout un travail, toute une réflexion puisée dans la littérature qui accompagne vos œuvres.
Ben, effectivement, il y a la question de l'esthétique qui est importante, mais il y a aussi la question, en l'occurrence pour cette exposition, qui est celle du message. Et on a l'impression que cette exposition, c'est aussi un cri du cœur, un cri de ces femmes qu'on n'entend pas, qu'on invisibilise. Et c'était primordial que non seulement qu'il y ait des œuvres qui parlent, mais que les murs parlent, que l'écrit, parce que moi, j'ai un parcours en littérature et d'un parcours en littérature et d'un parcours en histoire, et je sais à quel point l'archive est précieuse, je sais à quel point le texte est précieux. Et en fait, on estimait que ce n'était pas suffisant d'avoir simplement des œuvres d'art, mais c'est suffisant d'avoir des œuvres dans un cas où la parole n'est pas aussi importante. Et là, il fallait investir aussi les murs, il fallait aussi investir avec la parole, et je pense que le message débordait. Il débordait.
Mais c'est par l'archive qu'une cause peut avancer, hein?
Exactement, je pense que, et c'est pour ça qu'il y a une œuvre en particulier qui est une mise en vie de l'archive, c'est l'œuvre de Martine Chartrand, où c'est une animation, c'est chercher une archive, travailler à partir de l'archive et donner vie à l'histoire des femmes, d'une femme au Québec. Et je trouve que...
Et ça, c'est une œuvre qui vous est particulièrement significative parce que ça réunit vos deux sources d'inspiration, littérature, histoire.
Exactement.
Et archives.
Littérature, histoire et archives. Et je trouve que les femmes noires, artistes, font œuvre quasiment d'historienne. Elles créent des lieux de mémoire. Et je trouvais ça... Moi, ces œuvres me bouleversent à tellement de niveaux parce que, bien évidemment, j'ai l'impression d'admirer une œuvre qui est belle et qui a des choses à dire, mais j'ai également l'impression de vivre une histoire.
De découvrir des personnes oubliées par l'histoire, mais qui ont marqué, en quelque sorte, la petite histoire.
Exactement, la petite histoire qui crée, du coup, l'histoire, la grande histoire. Et c'est
qui se greffe à la grande histoire, effectivement.
Qui se greffe à la grande histoire, et c'est avec la petite histoire, les petites histoires, avec la parole des griottes, que, justement, on peut se réapproprier la grande histoire avec un H majuscule, qu'on peut se réapproprier notre discours, qu'on peut se réapproprier notre narration, qui ne sont pas que des discours et des récits, mais qui sont des moments d'histoire. Et c'est vraiment un élément important aussi dans cette exposition, c'est de comprendre que oui, nous avons une histoire et nous construisons, nous faisons partie de cette histoire, l'histoire du contemporain, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, l'histoire occidentale. Oui, il y a des femmes noires qui sont au Canada et qui produisent des œuvres et qui sont vecteurs d'histoire. Oui, il y a des femmes noires aux États-Unis qui sont également capables de créer de l'histoire et qui font partie de l'histoire américaine. Oui, il y a des femmes noires en Afrique du Sud et c'était important aussi pour nous d'inscrire ces femmes-là dans l'histoire.
Oui, mon Dieu. Alors, c'est le cri du cœur qu'on entend bien. Merci. Parlons, après cette envolée relativement à cette œuvre vraiment très significative qu'on peut voir qui est centrale dans l'exposition, celle de Martine Chartrand. Parlons un peu, peut-être donner quelques informations sur Martine Chartrand. Là. Elle excelle dans le cinéma d'animation.
Oui, elle excelle dans le cinéma d'animation. Puis il y a son film Âme Noire, c'est un véritable chef-d'œuvre qu'elle a réalisé en 9 ans, qui est de la peinture sur verre et qui parle du coup de l'histoire de l'esclavage au Québec. Et je trouve ce film majestueux. Il a reçu 21 prix internationaux, dont l'Ours d'or à Berlin, qui est quand même un prix assez prestigieux. Et Martine Chartrand, c'est un pilier de l'art.
Et tout le travail que nécessite la peinture sur verre, ça tient, ça nous connecte à l'histoire, ça tient du travail qu'on peut rapprocher de celui de l'artisan. Pour avoir interviewé moi-même Martine Chartrand, c'est un travail énorme de bénédictin ou de bénédictine.
Mais non, c'est un travail fastidieux et c'est 9 ans de sa vie. 9 ans à consacrer à une œuvre de la peinture sur verre, c'est-à-dire il faut une maîtrise, il faut une passion, il faut aller chercher l'histoire. Je pense qu'on n'a pas assez conscience au Québec à quel point Martine est précieuse. Et c'est dommage qu'elle ait une renommée à l'extérieur du Québec et qu'ici, on ne prenne pas conscience à quel point elle est précieuse, elle est talentueuse.
Alors qu'il faille vraiment se démarquer à l'extérieur pour être davantage appréciée ici, localement. Dommage, effectivement, c'est un bon point soulevé. Je poursuivrai avec Michaël Sergile, qui est la co-commissaire de l'exposition, peut-être nous présenter son œuvre qui est aussi centrale dans l'exposition que j'ai vue et que j'apprécie de revoir, que j'ai vue dans le cadre de l'exposition Paramètres. Donc, vous faisiez partie de l'exposition à titre de finissante au baccalauréat d'art visuel et médiatique. Et votre œuvre a été remarquée, commentée d'ailleurs par Alain Paiement à notre émission. Oui, tout à fait. Alors, ça me ferait vraiment plaisir si vous me présentiez cette œuvre, je pense, qui aussi réunit des sources d'inspiration, la co-commissaire Diane Gistal.
Oui, l'œuvre que j'ai faite pour Paramètres aussi, c'est une œuvre qui me tenait beaucoup à cœur parce que Frantz Fanon, je l'ai découvert il y a quelques années et je le travaille depuis maintenant 3 ans. Et j'ai commencé à travailler son texte en relisant plusieurs fois, puis en essayant de le traduire en écriture inclusive. Puis finalement, c'est en pensant à tout le lexique qui est lié au tissage et à la langue française que je me suis dit qu'il y avait un lien à faire entre ce livre qui m'apporte tellement et en même temps tout ce jeu que je voyais, que je pouvais faire justement avec le tissu, avec le langage. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de tisser un livre, est-ce que c'est faisable?
Très bonne question.
Et j'ai construit un code, et c'est un code qui fonctionne par rapport à la personne qui a la parole. Et donc, dans un tissu, déjà, il y a des fils qui sont à l'horizontale et des fils qui sont à la verticale. Et les fils qui sont à l'horizontale reprennent mot pour mot, phrase par phrase, tout le livre de Fanon. Donc, chaque tissu tissé revient à être un chapitre, et chaque ligne est une phrase du livre. Et la manière que je l'ai conçu, c'est que je reprenais un petit peu les termes qu'on utilise aujourd'hui pour décrire les gens, soit une personne noire ou une personne blanche, et finalement, on n'est jamais noir ni jamais blanc. Je ne suis pas une femme noire, je suis une femme à une teinte brune X, et c'est toujours de remettre en question ces termes qu'on utilise constamment, même si je n'ai rien d'autre à proposer. Je trouve que c'est réductif, finalement. Et dans le livre de Fanon, il parle justement de cette différence entre personne noire, personne blanche, les rapports de domination, les rapports de
et même pouvoir. Les rapports au sein même de la communauté noire.
Oui, 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 absolument. Et même si
ça c'est d'importance.
Oui, mais ouais. Justement, c'est un point qui m'a dérangé un peu aussi dans le livre, c'est que même si je comprends l'apport de Fanon, puis que ça a été écrit en 52, il y a quand même des parties du livre où Fanon discrimine lui-même des femmes noires. Puis ça m'a vraiment soulevée parce que je me suis dit comment on a pu réutiliser ce livre, citer ce livre aussi souvent sans jamais soulever la question qu'il y a une femme là-dedans qui s'est fait invisibiliser. Il y a une femme, Mayotte Capetia, qui le critique ouvertement et qu'à cause de cette critique et au fait que Fanon avait tellement une grande puissance à l'époque, elle s'est fait invisibiliser. On n'entend plus parler d'elle. Ses livres sont complètement discontinués. Il y a eu deux femmes, c'est Myriam Cotillas et je ne me souviens plus du nom de la deuxième, mais deux femmes qui ont réédité le livre, les deux livres de Mayotte Capetia parce qu'ils sont introuvables. Et c'est un petit peu ce qui va pousser mon travail de maîtrise à continuer le tissu, à continuer le codage de livres postcoloniaux d'ailleurs, et comprendre qui est cette femme et pourquoi Fanon en a fait une si grosse critique. J'ai fini par lire son livre et je réalise que Fanon, qui voit Mayotte Capetia comme étant une femme qui a honte de sa couleur, une femme qui a un complexe de lactification, que c'est un complexe que lui-même a inventé, comme quoi c'est le fait de renier sa couleur, d'avoir un problème avec le fait qu'on est noir. Puis j'ai réalisé en lisant le livre de Mayotte Capetia que Fanon, c'est basé sur un livre qui est fictionnel. C'est même pas réellement sa vie à elle, c'est une autofiction. Donc oui, il y a une part de réel, mais il y a une part inventée aussi. Et que finalement, toute cette critique que tellement des milliers de personnes ont dû lire est basée sur rien.
Donc ça, c'est une critique qui échappait à bien des gens qui n'est pas fondée.
Exactement. Puis oui. ça travaille encore sur l'idée de subalternité et de finalement invisibiliser une femme, mettre au second plan une femme sans jamais réellement comprendre quelle était l'histoire de cette femme. Donc non seulement elle est réduite au silence, mais qu'en plus la voix de Fanon est encore plus porteuse. Donc ça m'a détruite d'apprendre ça, puis c'est absolument pour ça qu'il faut absolument
alors que c'est un livre qui est au cœur de votre démarche.
Oui,
quel choc pour vous.
Oui, vraiment. Mais j'apprécie tout de même le travail de Fanon. Sans le travail de Fanon, nous n'en serions pas ici aujourd'hui non plus.
Il était de son époque. Il faut comprendre qu'il était de son époque.
Exactement. 1952, je comprends à 100% aussi. Oui. Mais n'empêche que je prends et je laisse. Mm-hmm. J'apprécie tout de même lire Fanon, mais je vais quand même tenter de creuser un petit peu plus. Puis
c'est tout un travail à la maîtrise qui vous attend, là.
Oui, mais j'ai déjà hâte. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres femmes qui ont justement cherché à savoir qui était Mayotte Capetia, et j'ai envie justement de pouvoir discuter avec ces femmes-là, discuter avec les auteurs qui ont repris les livres de Mayotte et comprendre un peu plus tout le travail derrière tout ça.
C'est tellement important de sortir de l'ombre toutes ces femmes qui ont contribué à l'art, à la littérature. Alors, quel beau sujet de maîtrise! Quel bon choix!
Kaoleza. Kaoleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Kaoleza, mama, which simply means, hurry, mama. Please, please don't let them catch you. Kauleza, mama, kauleza, mama. Kauleza, mama, kauleza. maman quand les hommes m'ont cherché ça va. Na gama poi sa songe nendini maman vatika ou les hommes. Na gama poi sa songe nendini maman vati cherché ça va. Jonga 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 yoka ou les hommes.
On pouvait faire un petit survol des autres artistes. Vraiment, il y a des œuvres captivantes. Alors, nous sommes justement devant une œuvre, je pense, d'une artiste qui fait dans la danse-théâtre. Alors, c'est une vidéo absolument prenante et qui touche vraiment à un grand tabou dans la communauté noire. Hein? M'aviez mentionné ça?
Oui, alors c'est l'œuvre de Constance Strickland, qui est une Américaine, une Afro-Américaine. Et du coup, en effet, cette œuvre touche à la question de la santé mentale. Et c'est une œuvre qui est centrale dans notre exposition parce que dans le sujet de la subalternité, effectivement, la santé mentale, c'est quelque chose qui est vraiment sous la table. On n'en discute pas. C'est un tabou qui est énorme parce que, oui, dans les communautés noires, lorsque quelqu'un a un problème de santé mentale, on est dans un déni absolu. On ne consulte pas de psychologue, de psychothérapeute, ça ne se fait pas. Et là, d'avoir une femme qui non seulement réalise cette œuvre, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la personne également qui joue dans le film, c'est elle. Et qui aborde cette question.
C'est une performeuse qui fait dans la danse-théâtre.
Exactement. Et cette œuvre est particulièrement poignante parce que c'est une femme noire qui aborde ce sujet-là, qui femme noire déjà, qui figure de subalternité, qui aborde un sujet qui est tabou. Et on trouvait que c'était essentiel dans cette exposition d'avoir aussi des sujets comme du coup la santé mentale, l'identité de genre, des sujets comme l'appartenance, est-ce que j'appartiens à ce territoire ou à un autre, l'identité,
l'implication. L'immigration massive, c'est hautement d'actualité.
Exactement, et du coup, c'est des sujets qui sont d'actualité, et on voulait avoir non seulement des œuvres avec des médiums divers et variés, mais aussi avoir des
sujets. Oui, parce qu'en parlant de vidéos, on a ici vraiment, mais on a au fond aussi une œuvre, une autre œuvre vidéo vraiment d'intérêt. Ceci est un poème qui traite de la violence, écoutez. Ça réussit avec une poésie vraiment, tout ce qu'il y a de plus ressenti, voire même parfois urbaine.
Je ne sais pas si Diane veut commenter, parce que moi, j'ai eu de la difficulté à voir la vidéo. Ça m'a tellement touchée que j'ai
c'est
dû...
C'est une vidéo très, très touchante.
Personnellement, ouais. Pour moi, oui. Pour moi, oui.
On va y aller avec Diane Gestal, qui est peut-être plus disposée.
Oui, c'est une vidéo qui est particulièrement touchante et ça aborde la question des violences sexuelles pour les femmes racisées.
Et de la diversité aussi. Hein.
Et de la diversité, mais c'est effectivement la question qui est centrale dans cette exposition, c'est de sortir de cette définition unique de la femme noire comme un objet hypersexualisé. Et il y a cette question-là avec le fait que lorsqu'on voit une femme noire, on a ces discours-là, ah, mais elle est laissée une lionne, oui, mais toi, depuis que t'es très jeune, ah, t'as des courbes. Enfin, et du coup, il y a tout ce discours de violence qui est proféré envers les femmes noires. Et il y a aussi ce rapport avec le corps qui est tellement sexualisé que parfois, les gens ont la difficulté à comprendre que effectivement, on vit des violences depuis notre enfance, on vit des violences au quotidien, et de mettre ces violences sous forme de poème, je trouve que c'est particulièrement fort, particulièrement beau, particulièrement touchant. Il y a un travail avec les couleurs, il y a un travail avec la diversité des femmes qui prennent la parole, et non seulement
c'est... La déclamation est vraiment nous interpelle énormément.
La déclamation est magnifique et c'est certain qu'il y a un travail aussi sur la beauté des images. C'est vraiment quelque chose qui me met mal, il y a un inconfort parce que les images sont d'une beauté. L'esthétisme est parfait de cette vidéo, mais vous avez un message qui, à côté, est poignant et touchant. Et effectivement, comme on disait, cette exposition, c'est aussi les messages et les mots. Et là, pour moi, il n'y a pas plus fort que des mots pour exprimer ce que vit une femme noire qui, au quotidien...
Qui souhaite se réapproprier enfin son corps.
Qui souhaite se réapproprier son corps, qui souhaite se réapproprier le discours.
Sa vie,
le discours sur son corps.
Oui.
Et je pense que cette œuvre-là
était... C'est un cri, en ce sens. Oui.
C'est un cri. Et je pense que, sincèrement, selon moi, toutes ces œuvres sont un cri.
Effectivement, écoutez, et vous-même m'avez ébranlé dans votre présentation de l'exposition hier soir, donc c'était le vernissage, voilà. Vous aviez quelque chose à ajouter, Michaël Sergil?
Oui, en fait, pour revenir au texte encore avec le texte de Subalterne et les deux niches qu'on a investies pour l'extérieur de l'exposition, ça je trouve que c'est pertinent aussi parce que même si nous fermons les portes, on peut voir à l'extérieur, avec les vitres, les deux textes.
Ça, j'ai beaucoup apprécié les deux textes écrits, oui. Réellement, là.
Oui. On y a vraiment beaucoup pensé aussi. Et dans un des textes, on parle de ce qui s'est fait avant aussi, de Grace Channer et de Busségé Bélé, qui sont deux femmes qui sont commissaires aussi et qui ont créé les premières expositions pour et par les femmes noires à Toronto. Et ça, selon moi, il fallait vraiment le notifier, il fallait vraiment le mettre en avant parce que selon moi, c'est grâce à elles aussi qu'on a des voix aussi porteuses, qu'on réussit à trouver des artistes noires, femmes, parce que c'est elles qui ont ouvert la marche, c'est elles qui ont créé tout ça, sauf que je me dis, quand est-ce qu'on va le faire à Montréal? Parce que là, ça a été fait, mais du côté anglophone du Canada, mais ici, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, c'est tout le temps la même chose, on ne trouve pas d'artistes noirs, non, on n'a pas trouvé de femmes noires pour faire ci et pour faire ça. Je trouve que c'est des excuses. Sincèrement, l'initiative a été faite à Toronto, pourquoi pas ici? Donc, on s'est donné ça comme initiative, j'espère que ça va continuer et qu'on va continuer à avoir encore d'autres artistes femmes, parce que c'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Il y en a des...
L'appel est transmis.
Il faut que ça continue.
Merci. C'est sûr qu'on ne pourra pas parler de toutes les expositions, il y en a beaucoup à voir, mais on va parler peut-être d'une dernière, une autre artiste vedette que vous avez en vitrine, une série photographique vraiment qui a obtenu un gros succès tant ici qu'à l'international. Qui voudra en parler de vous deux?
Ben en fait, oui, on est vraiment contente d'avoir Zanel Mioli qu'on a pu voir au Musée des Beaux-Arts dans l'exposition « Nous sommes ici d'ici ». Surtout l'œuvre que nous avons, c'est Faces and Phase, qui nous importait vraiment beaucoup parce que même si le droit de mariage pour les personnes homosexuelles a été accepté en Afrique du Sud, ça reste encore très tabou. Et surtout que ce projet entrepris par Zanel avec plus de 327 photos de femmes...
C'est quelque chose comme démarche.
Oui, c'est quelque chose. Oui. Femmes noires, femmes lesbiennes, femmes trans. Et ça a été un projet qui a été difficile aussi pour l'artiste parce que une fois que le projet a été lancé et publié, il y a une des personnes photographiées qui a été tuée, qui a été violentée. Oui.
Oh mon Dieu.
C'est parce que c'est devenu.
Ça m'a vraiment en état de choc.
Ouais, c'est devenu public. On a su justement par rapport à son orientation et c'est pas quelque chose qui est accepté par tout le monde. Et même Zanel, l'artiste, a été vandalisée. Sa maison a été complètement en dessous. Elle a perdu des fichiers, mais tout ça pour dire qu'au final, faire un message, transmettre un message qui normalement...
Non, mais est vraiment pas sans risque. D'énormes risques peuvent accompagner une exposition.
Ben oui, absolument. Oui. Puis surtout que c'est censé être accepté. Elle fait un projet par rapport à ça avec 327 femmes. Et pourtant, malgré tout, il y a tellement de gens qui sont en colère que ça en vient à la violence. Ça nous a tellement prises qu'il fallait absolument qu'on mette ce projet-là, qu'on en parle le plus possible. Parce que toutes ces femmes-là, il faut qu'on leur donne cette visibilité-là.
Il y a peut-être nommé les autres artistes dont on ne pourra pas parler parce que, bon, le temps va nous manquer, mais elles sont aussi d'importance, elles présentent aussi des œuvres d'importance. Peut-être nommer leur nom?
Donc, il y a dans les artistes montréalaises, donc il y a Shana Strauss qu'on a vue au Musée des Beaux-Arts. Il y a l'artiste Malicheuse qu'on connaît à travers ses graffitis dans Montréal.
Qui fait dans l'art urbain, oui.
Dans l'art urbain, Malicheuse qui est une femme qu'on a tous pu voir une de ses œuvres en marchant sur Sainte-Catherine à un moment donné. Dans les artistes locales, il y a également trois femmes qui proposent du coup la vidéo dont on parlait sur les violences sexuelles. Donc, ils sont Po B, Lomami, Claire Obscur et Valérie Bas. Et en artiste local, il y a également, donc, comme on avait dit, Martine Chartrand, Michael Sergil. Ensuite, dans les artistes américaines, américains.
Marie-Laure aussi, qui est artiste locale. Marie-Laure
Oui.
Louis.
Marie-Laure Saint-Louis, je m'excuse parce que je ne voyais pas de ce côté-là. Et il y a donc en artiste international, donc il y a Zanel Mouly d'Afrique du Sud. Et juste pour rectifier tout à l'heure, c'est pas l'exposition au Musée des Beaux-Arts, c'est pas l'exposition Nous sommes d'ici, c'est l'exposition Picasso en regard. Parce que c'était deux parties.
Elle faisait partie de cette exposition-là de Picasso?
Oui, c'est ça, c'est parti de
l'exposition. En face à face.
En face à face. Et enfin.
Et vous avez bien sûr il y a le vidéo derrière nous.
Oui. Exactement, et donc deux artistes américains-américaines. Donc il y a Constance Strickland et l'artiste Mickey Blanco par l'intermédiaire de Adina
Danziger.
Si vous me permettez, je terminerai peut-être par... est-ce que vous accepteriez de lire un petit extrait d'un des textes en vitrine? Parce que j'ai lu avec grand plaisir ce texte. Quelques mots, on peut peut-être se déplacer. Est-ce que quelques mots souhaiteriez lire?
Se réapproprier la narration, transformer les silences en langage et en action. Action qui, comme le rire de Maya Angelou, deviennent politiques. Politiques comme les poèmes manifestes de Dion Brand et d'Audre Lorde. Politiques comme les portraits-reflets de Kosi Chukwu Nebe. Des actions simples mais qui pourtant sont marqueurs de changement. Changement tels les premières expositions commissariées par Busé Djebele et Grace Channer. Simple comme simplement arrêter de créer une priorisation de lutte. Ou simple comme simplement reconnaître l'impact du travail de toutes ces femmes qui ont permis de créer un précédent.
Merci beaucoup, Michaël Sergil, vraiment de nous avoir présenté l'exposition et d'avoir terminé par cette lecture. C'est très émouvant. Et merci, Diane Gistal.
Merci à vous.
Alors, vraiment, j'espère que toutes les deux, vous avez d'autres projets à venir parce que vous êtes des plus inspirées.
En fait, on a plusieurs projets. Est-ce qu'on en parle?
Oui, allons-y. Allez-y.
OK. Le 15 février, qui est la semaine prochaine, vendredi prochain, nous organisons à la Cinémathèque québécoise une projection de film, Marianne Noire, et une conférence avec trois panélistes et une animatrice qui porte sur la représentation et l'autoreprésentation des femmes noires dans le théâtre et dans les arts visuels.
C'est intéressant.
Le 22 février, nous organisons une autre projection avec un documentaire qui s'appelle « Moi, Marie C, écrivain noir et rebelle ». Et pour le premier, nous organisons en collaboration avec le festival Massimadi une projection du film Rafiki, suivant d'une conférence portant sur les femmes noires lesbiennes dans les films, dans l'industrie du cinéma.
Oh, merci. Alors, c'est un mois très intense qui s'annonce, le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.